Voilà, donc on reprend notre entretien sur cette tortue-là, Cistude d'Europe. Et oui, ma question, c'était de savoir, est-ce que, puisqu'elle vit dans cette zone, ou elle passe dans cette zone dont on sait qu'elle est polluée, est-ce qu'on voit des impacts de la pollution, des méfaits ou est-ce que c'est mesurable, d'ailleurs, ou comment c'est mesurable ?
Il est probable qu'on puisse les mesurer avec des prélèvements sanguins, peut-être. Ce n'est pas des choses qu'on pratique. Il faut savoir que la manipulation d'espèces protégées est liée à des autorisations. Vous avez une autorisation pour les manipuler, mais vous avez une autorisation pour faire des prélèvements aussi. Néanmoins, il y a des chercheurs qui s'occupent de ces prélèvements au niveau départemental. Aujourd'hui, on n'a pas été approché sur cette question-là, lié au fait qu'on a l'impression que la population se porte assez bien. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a toujours des naissances, il y a toujours des jeunes, il y a des individus qui semblent être assez vieux. Donc cette particularité de pollution, en fait, de prime abord, je ne pense pas qu'elle soit mesurable et intéressante. À l'inverse, par contre, on sait par exemple que la tortue de Floride qui est présente sur site a un impact beaucoup plus grand que cette pollution, puisqu'elles sont en compétition pour les espaces et la nourriture.
Et d'où vient la tortue de Floride ?
La tortue de Floride est une espèce qui a été vendue dans les animaleries pendant longtemps.
D'accord.
Et qui a été relâchée du fait que quand elles deviennent très grosses et qu'elles sont assez voraces, les gens n'avaient pas la capacité de les garder chez eux et les relâcher dans l'espace naturel. Et c'est comme ça qu'on a trouvé beaucoup de tortues de Floride sur le site. C'est pas la seule espèce introduite, mais c'est nous la plus prépondérante. On a récupéré plus d'une vingtaine d'individus qu'on a dû parquer dans un bassin chez nous.
Ah oui, d'accord. Mais donc vous avez des tortues de Floride ici
On a des tortues de Floride, oui. Et parce que les refuges sont saturés, qu'ils n'ont pas la possibilité d'en récupérer de plus. Et donc du coup, on leur a fait un bassin. On a d'ailleurs un petit promontoire avec des explications. Et ça nous permet aussi de faire de la vulgarisation et de la sensibilisation pour la Cistude d'Europe en parlant des tortues qui sont relâchées. Voilà. Parce qu'il faut imaginer qu'une tortue de Floride, c'est entre 1,5 kg et 2 kg pour des individus adultes, alors même que la Cistude est une tortue qui fait 400 à 600 grammes. Donc elles n'ont pas le même impact dans le milieu naturel. La tortue Floride mange beaucoup plus de proies et elle est beaucoup plus
impactante.
Ouais, c'est surtout qu'elle va chasser la Cistude d'Europe.
Elle est agressive.
Plus territoriale, elle est.
D'accord.
Agressive, ouais. Comme on discute, on entend passer les avions et les trains. On se rend bien compte que le site est vraiment coincé ou situé, disons, dans une zone extrêmement anthropisée et où la présence humaine est partout, en réalité. Et la présence de la tortue de Floride est aussi, comment dire, un aspect collatéral, je ne vais pas dire un dégât, mais une conséquence des activités humaines, en quelque sorte, là, de loisirs. Et ce qui est intéressant sur le site, c'est qu'on a aussi une espèce d'image de la cohabitation de tout ça, du passé, du présent, enfin des choses... Et puis de la nature et de l'humain en même temps. Et malgré tout, on arrive à avoir un site assez équilibré, finalement. Il n'y a pas tous ces problèmes de pollution, d'introduction, de gènes occasionnés par les activités humaines ou la présence des humains. Malgré tout, le site se maintient, je crois. Il a l'air d'être en forme, en tout cas.
Alors, il est en forme, si on regarde ce qu'on étudie, nous, aujourd'hui, et ce qu'on voit, hein, au niveau faune et flore. C'est vrai que c'est assez intéressant. On a tendance à avoir une réduction de la qualité des espèces. Ça, c'est au niveau oiseau. On s'est rendu compte de ça. En fait, on perdait des espèces intéressantes au détriment d'espèces beaucoup
plus banales.
Banales, voilà. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, comme c'est le cas aujourd'hui. On a le balbuzard pêcheur qui revient sur site. Et c'est assez intéressant. Et on a par contre la particularité d'avoir un problème sur les 28 espèces exotiques envahissantes
de flore. Jusqu'à présent, de flore, voilà. Oui.
On a un problème avec une liane envahissante qui est la périploque de Grèce. Et celle-là, moi je l'ai connue en début de site quand je suis arrivé. Elle était sur une toute petite surface. Aujourd'hui, elle a une dynamique qui est très très importante. Mmh. Pourquoi? Et ça, à terme, on ne sait pas.
Pourquoi ça représente un problème?
Alors, un problème, on ne sait pas réellement la finalité, mais aujourd'hui, elle a une dynamique qui lui permet d'aller chercher la lumière en haut des arbres. Donc, elle a plutôt tendance à étouffer les arbres. Mm-hmm. Et sur des grandes surfaces, comme elle colonise les végétaux, on pense qu'il peut y avoir de la perte de biodiversité en dessous.
L'objectif de votre action, c'est de conserver la biodiversité et de la protéger. C'est ça, le sens de ce que tu fais ici sur le site, indépendamment de l'éducation, de la transmission. C'est vraiment dans l'interaction avec le site naturel, c'est vraiment votre...
Oui, c'est à la fois de la conserver, mais tout en limitant les actions aussi, puisque... en fait, toute action a un impact à terme, à l'issue.
Oui.
Et on peut se poser des questions. C'est vrai qu'on a été interpellé récemment par le fait qu'on a maintenant une colonie de cigognes avec potentiellement une prédation plus importante sur des proies qui peuvent générer peut-être un déséquilibre. Donc c'est toujours ça qui est délicat. Et on sait que par nature, dans tous les cas, ces cigognes, par exemple, elles se seraient développées, puisque aujourd'hui on a une expansion de l'espèce au niveau de la périphérie de la Camargue, puisqu'elle était déjà présente en Camargue depuis longtemps, et peut-être par des phénomènes de changement climatique ou d'autres facteurs, on ne sait pas, son expansion s'agrandit. Donc est-ce que c'est nos nids qui ont favorisé l'espèce? Est-ce que c'est le développement d'un facteur X, on ne sait pas quoi. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut être interpellé sur notre gestion. Le Conservatoire du Toral, par exemple, est beaucoup critiqué, notamment par exemple en Camargue, puisqu'ils ont une politique de non-intervention. Mm-hmm. Et cette politique a des effets qui, à long terme, on sait qu'ils sont intéressants écologiquement, puisque déjà on sait qu'on ne peut pas lutter contre certains phénomènes, hein, notamment la montée des eaux par exemple, mais on sait qu'on maintient certains secteurs de façon artificielle complètement. Donc c'est la question de à quel endroit on se place, est-ce qu'on est en mesure de faire nous de la gestion, on fait plutôt du suivi, de l'étude, et si on peut favoriser, on le fera sans que ça perturbe le milieu, par exemple. On a des espèces qui souffrent, par exemple, de concurrence, comme le triton palmé, qui est un petit lézard aquatique, un amphibien. Et la particularité, c'est que dans d'autres secteurs, il y a de l'écrevisse qui a été introduite aussi.
D'Amérique, la
patrouille. Et par contre, elles ne font pas bon ménage ensemble. Donc, dans des secteurs, on va essayer de favoriser ce triton qui n'a pas... qui a malheureusement son aire de répartition qui se réduit, quoi. Mmh. Et parce qu'il n'a pas un impact majeur sur le site.
Vous vous retrouvez à faire des arbitrages entre les espèces, hein.
Des fois, oui.
Ça, c'est un vrai problème éthique à la fin, parce qu'il faut bien prendre des décisions quand on dit qu'on fait de la gestion, et du coup ça mène à des décisions qui peuvent être, comme tu le disais, parfois contre-productives en fait. Certaines protections de nids d'oiseaux vont nuire à la présence de certains invertébrés. Mmh. Je parle des mollusques, pour ne pas les citer. Et voilà, et on a une expérience maintenant depuis 30, 40 ou 100 ans de gestion des espèces naturelles, que certaines actions ne sont pas toujours les meilleures. Quoi. Enfin, c'est très compliqué en fait d'avoir une image globale de toutes les interactions entre tous les groupes d'espèces.
Oui, tout à fait. Et puis, nous étant un site industriel, donc largement remanié par l'homme, c'est difficile de savoir à quel moment on s'arrête, parce que l'homme a complètement façonné le site, donc c'est complètement artificiel. Donc la gestion qu'on fait aujourd'hui, elle est issue de patrimoine historique humain, qui fait qu'aujourd'hui, on peut garder cette dynamique ou ne pas la suivre.
Oui, oui. Ouais. C'est pour ça que, pardon.
Oui, juste c'est comme ce que tu disais par rapport à l'eau, en fait, parce que l'eau qui remonte, elle revient aussi sur de la terre qui a été ajoutée de manière artificielle.
Oui.
Donc, comme tu disais tout à l'heure, elle serait venue de toute façon, la cigogne, mais c'est très difficile d'imaginer l'état naturel de ce site, ce qui se serait passé si on n'avait pas rajouté de la terre, ou, puisque de toute façon, l'intervention humaine, elle date depuis tellement, tellement longtemps que là, tout est entremêlé en réalité, non ?
Exactement, c'est ça le dilemme aujourd'hui, c'est qu'on vise à une gestion qui est liée à un site tel qu'il est aujourd'hui. Nous, on y adjoint évidemment les évolutions avec les scénarios de montée des eaux, par exemple, et on sait qu'on va perdre sur les 40 à 50 hectares qui ont été comblés sur l'étang, peut-être qu'on va perdre autant de surface dans quelques années.
Et ça pose vraiment la question, ce que vient de dire Lucie, sur le... Il faudrait vraiment, et c'est très difficile pour un naturaliste, de décider, je reviens sur cette question de responsabilité, mais pourquoi la tortue de Floride aurait moins de valeur que la cistude ? Mais qui sommes-nous pour pouvoir avoir des... Alors, on sait très bien que l'écrevisse a causé des dégâts sur les autres espèces d'écrevisse indigènes dans les rivières de France, mais enfin... C'est aussi notre action qui fait ça, et notre besoin d'avoir du loisir, donc des animaux de compagnie, enfin, tout est lié, je veux dire, on ne peut pas arriver et décider comme une espèce de dieu, de démiurge.
Je dirais même qu'il n'y a, pas de hasard. En fait, les espèces, elles n'arrivent pas pour rien. On sait qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont introduites du fait de l'activité humaine, mais si tant est qu'elles se plaisent à un endroit, elles vont se développer. Donc, aujourd'hui, je prends l'exemple de deux espèces d'arbres, qui est la robinier faux acacia et les lentes, qui se sont développées dans ces dernières années sur l'ensemble de la France, qui tendent à aujourd'hui être naturalisées parce que leur dynamique est telle qu'on va les intégrer dans la base de données.
Oui.
Et pour autant, lutter contre cette espèce, ce serait peut-être... une erreur, parce que elle est tellement acclimatée, c'est une espèce pionnière. Si demain il y a un changement qui est lié à par exemple un réchauffement climatique, on sait que les espèces en place, elles auront du mal, donc elles vont péricliter. Donc si on enlève déjà les espèces qui arrivent toutes seules à se maintenir, on n'aura absolument plus rien.
Ce qui est étonnant d'un point de vue historique, c'est que dans en phytosociologie, où on décrit donc les groupements d'espèces par rapport aux habitats, disons, pour aller très vite, le facteur écologique, l'érable Negundo, qui est une autre espèce introduite américaine dans les ripisylves du sud de la France, est considéré au début du XXe siècle comme faisant partie du cortège par Ron Blanquet quand il décrit l'association des ripisylves, disons, voilà. Il l'indique comme espèce caractéristique du groupement, alors qu'elle est introduite. Et les Italiens ont créé maintenant une forêt de robiniers, quoi. Elle est tellement présente en Italie que des fois, c'est des forêts monospécifiques à robiniers. Il fallait bien la cartographier, donc lui donner un nom. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'en réalité, oui, si on voulait que ça ne se produise pas, il faudrait soit aller sur Mars, soit arrêter toutes les activités humaines, disons, de type capitaliste, on va dire. Bon, pas pour dire un gros mot, mais peut-être c'est pas le bon mot, mais enfin, vous avez compris, quoi.
On commence à entendre les cigales qu'on n'entendait pas.
On a dépassé 27 degrés.
On a parlé juste de la tortue pour les reptiles. Peut-être on peut continuer,
oui.
Soit avec les reptiles ou les insectes.
Alors les reptiles, il doit y avoir du gecko, donc je disais peut-être...
Oui, le gecko a remplacé le lézard des murailles depuis quelques années. Ouais. Ouais. On a une baisse de la quantité.
Ça, c'est le réchauffement climatique plutôt, j'imagine.
C'est possible, ouais, c'est largement possible. Il y a le gecko remonte en France.
Oui, oui, oui.
Donc effectivement, on a 4 espèces de couleuvres.
Oui.
On a
pas de vipère.
Non, on n'a pas de vipère. La vipère est présente un peu plus haut là, mais elle affectionne plutôt les hauteurs.
Ouais.
Ouais. Ce qui est un problème, justement, les serpents sont bénéficient de leur d'un ancien statut et les gens ont peur des serpents. Aujourd'hui, on essaye de vulgariser tout ça.
Bien sûr, oui.
Mais on a du mal à. Les gens nous disent encore que ça leur arrive de les tuer juste parce qu'ils sont là dans leur jardin.
Orbes, ceps, des trucs comme ça.
Présent sur site, je dirais orvée, oui, mais le ceps, on l'a pas vu encore. On a pas loin, juste au-dessus, le lézard osselet.
Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est le plus grand lézard de la faune française, qui fait 60-80 cm sur la queue.
Oh, d'accord.
Très, très coloré, très beau,
ouais.
Très discret, extrêmement furtif.
Il a été vu à 300 mètres de chez nous.
Il se protéger, je crois.
Oui.
Et puis alors après, oui, effectivement, à part si tu as d'autres reptiles amphibiens, donc amphibiens, il y a du triton.
Non.
Il doit y avoir des grenouilles et des crapauds.
Oui, tout un cortège.
Classique.
Classique, ouais.
Et sur les invertébrés, alors là, ça doit être la folie. Beaucoup de connaissances fragmentaires, j'imagine, sur beaucoup des araignées, les insectes, les crustacés, donc il y en a moins un qu'on connaît.
On attend des spécialistes là-dessus.
Voilà, d'accord.
C'est, ouais, les insectes, c'est un monde assez particulier. On avait un myrmécologue qui est passé une fois, mais juste de façon bénévole.
Que les fourmis.
Ouais, que les fourmis.
D'accord.
Il avait regardé, mais c'est un monde où, pour l'instant, qu'on n'a pas exploré.
Les papillons de jour, j'imagine que vous les connaissez, vous les voyez.
Quelques-uns, ouais, mais c'est pareil, on n'a pas de.
Ah oui.
On n'a pas d'espèce protégée.
Donc il y a encore du boulot.
Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Les libellules, on l'a fait parce que c'est typiquement un féodé voilà, au milieu humide. Papillons, ce qui est frustrant par exemple, c'est qu'on a la ristoloche, qui est une plante haute pour la diane notamment, qui est un papillon protégé. Mais on n'a jamais vu le papillon.
Ah. Vous recevez, tu reçois sur le site des scientifiques, ça fait partie aussi de tes tâches. Est-ce que tu peux nous dire qui vient ici en fait? Le site n'est pas toujours ouvert au public, donc comment ça se passe, soit avec les personnes que vous recevez parce qu'elles veulent faire des choses spécifiques, soit avec le public?
Ouais. Il y a deux cas. Il y a le cas où c'est nous qui sommes demandeurs, ça c'est arrivé pour plusieurs taxons qu'on a voulu étudier, notamment les chauves-souris et les oiseaux, les rapaces nocturnes, où c'est nous qui avions commandé les études. Donc là, on a des inventaires qui s'établissent des fois sur une année. Par exemple, les chauves-souris, c'est la particularité d'avoir 4 gîtes dans l'année, donc il faut étudier ça sur un an minimum. Et à l'inverse, on a des demandes de scientifiques, c'est déjà arrivé effectivement, où là, en fait, on est approché par certains bureaux pour des suivis. Je pense notamment, par exemple, à un bureau de. Je ne sais plus qui, mais ils ont étudié le limonium, un limonium, donc qui est une espèce halophile, qui est féodé au bord des temps. Et la particularité, c'était que cette espèce, limonium confusium, était potentiellement divisée en deux dans la classification. Et donc, c'était une étude génétique qui était menée sur tout l'arc méditerranéen pour savoir si il y a vraiment deux espèces différenciées ou si c'en est qu'une. Et à ce moment-là, il requalifie la flore, par exemple.
D'accord.
Et l'étude est terminée ?
L'étude, non. Ils sont venus faire des prélèvements il y a presque un an.
Oui, d'accord.
Mais ils doivent tout étudier, je crois qu'il nous avait dit, pas avant 2 ans, le résultat.
Et oui, et donc je crois que les horaires, le site n'est pas ouvert tout le temps au public. Donc,
oui, le site est ouvert que certains jours. Il a un fonctionnement très varié en fonction de l'époque de l'année. On peut avoir mercredi toute la journée, un dimanche sur deux. Comme cet été, là, par exemple, tous les matins de semaine, on est ouvert. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est une raison financière, du fait que ouvrir plus, ça génère du personnel, et que ce personnel, il faut le payer. Et il y a aussi une raison écologique de faire reposer le site entre des périodes d'ouverture de public.
Oui, j'imagine que puisqu'à la fois, il faut que ça reste un site assez protégé, et en même temps, il y a cette vocation à l'éducation, il ne faut pas que les deux aspects entrent en concurrence en fait.
Exactement. Alors il y a déjà des zones sur lesquelles en fait il n'y a absolument pas de public. On a identifié des espaces, notamment au bord d'étang, qui sont complètement fermés au public, liés au fait qu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui nichent à même le sol. Mm-hmm. Et là on risquait d'avoir de la perturbation. On a ces grands espaces laissés en naturalité qui sont impénétrables à l'intérieur, donc finalement le public n'a accès qu'au chemin. Et c'est comme ça aussi qu'on maintient cette pression humaine liée au fait que le public n'a accès qu'à certains secteurs et du coup aussi qu'à certains moments de l'année. Quoi.
D'accord.
Et la fréquentation est élevée sur le site du coup par rapport aux habitants de Saint-Chamas, peut-être même d'ailleurs.
C'est marrant que tu soulignes ça parce qu'effectivement, jusqu'il y a 5 ans, on avait vraiment des locaux qui venaient. Donc ce site a, comme son passé historique, on avait beaucoup de gens qui étaient rattachés à ce site par rapport à l'histoire et qui venaient régulièrement. Donc c'était des gens qu'on voyait assez souvent. Et depuis quelques années, en fait, du fait de la communication et que les gens ont cherché aussi à aller plus loin, notamment aussi l'effet Covid, on a des gens qui viennent d'un peu plus loin et on a doublé nos visiteurs entre l'avant-Covid et l'après-Covid. On est passé de 8000 à 20000 visiteurs par an. Mais ça reste marginal au regard de sites naturels qu'il y a autour. On reste quand même pas très fréquenté. Mmh.
Et quand tu parles des personnes qui venaient avant, c'était que leur histoire familiale était liée à l'histoire de la poudrerie, de l'activité.
Oui, c'est ça. C'est qu'à Saint-Chamas notamment, on avait beaucoup de personnel qui étaient issus de cette ville. Et on a des enfants, des petits-enfants qui viennent. C'est un site qui est plus près de Saint-Chamas aussi, donc... accessiblement parlant, ils arrivent à pied, c'est beaucoup plus facile aussi. Mais il y a un rattachement plus certain, en tout cas à Saint-Chamas, ça c'est sûr.
D'accord.
Vous imaginez qu'avant le premier conflit mondial, en 1910, on intensifie la production sur le site. Il y a 7600 ouvriers qui travaillent sur le parc, alors même que Saint-Chamas est un village de 3000 habitants.
Mmh. Oui.
À ce propos, on fait intervenir donc de la main-d'œuvre qu'on doit appeler, qu'on doit faire venir d'ailleurs.
Exactement, notamment des Alpes par exemple,
oui.
Et aussi des étrangers
colonies,
dans les colonies, notamment sur le deuxième conflit mondial.
Mm-hmm. Ouais. Bon. Je ne sais pas si tu as. Mm.
Bah, peut-être, puisqu'on est dans les chiffres, tu peux peut-être nous rappeler. Donc, vous avez une idée du nombre d'espèces que vous avez dans la globalité pour rester sur les choses écologiques, qui est le retour à ça.
Oui, on a entre 500 et 600 espèces de plantes.
Oui.
Donc ça a été inventorié par un bénévole qui a fait un travail remarquable sur site et qui a aussi comparé cette flore avec d'autres secteurs du coin. On a cette flore, on a 28 espèces exotiques envahissantes, mmh. dont une seule nous pose problème en fait. Mmh. On a 8 espèces protégées, donc plusieurs espèces inféodées au milieu salé et d'autres espèces plutôt de milieu doux, comme les lanthèmes à feuilles de marron par exemple. Mmh. On n'a pas d'orchidées protégées. Mmh. On a plus de 130 espèces d'oiseaux. Mmh. Et après, on a tout un cortège du micro-mammifère jusqu'à...
Au micro-mollusque.
Au micro-mollusque.
Bon. Ben, merci beaucoup, Joël.
Merci à vous.
Merci.
Merci, merci beaucoup.
Oui.
Alors, je ne sais pas si on pouvait là maintenant parler justement de tout ce qui était les aspects plus humains.